tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Critique. Bonus.
Critique les bonus sur le web avec Jadeline Garde, auteure de Je crise climatique, La planète, ma chaudière et moi. Alors Emmanuel, tu avais une question à poser à Jade.
Oui, Jade, vous avez dit là pendant notre entretien que pour vous la notion d'anthropocène, qui est donc notamment le titre de l'ouvrage de Christophe Bonneuil et puis le nom d'une collection au Seuil, c'est ça ? Mais oui. Qui est surtout le terme qui désigne une période qui démarre à peu près à la révolution industrielle, si mes souvenirs, si c'est ça à peu près.
Un changement d'ère géologique, voilà, qu'en gros l'impact de l'activité humaine sur l'écosystème est devenu tellement énorme qu'on c'est au point de nous faire changer d'ère géologique, qu'on était dans l'Holocène et on passerait dans l'Anthropocène.
Exactement. Plus puissant que la technique des plaques ou
Vous avez dit que pour vous cette notion était un peu trop dépolitisante. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus?
Ça, moi, j'ai deux problèmes principaux avec cette notion d'anthropocène, dont il faut bien constater le succès énorme. C'est vrai que c'est un terme qui fascine et que depuis sa création, il y a une dizaine d'années maintenant par Paul Crutzen, qui est un très très grand scientifique, hein, prix Nobel de chimie, cette notion d'anthropocène donc a fait florès et là de fait depuis même de un an et deux ans est de plus en plus reprise en sciences humaines, en philosophie, en sociologie, en histoire et un peu par les mobilisations et les mouvements sociaux. Donc il y a un vrai succès, donc ça voilà, parce que c'est très spectaculaire. C'est-à-dire, si on en est venu, si le niveau d'impact de l'activité humaine sur l'écosystème atteint un tel niveau qu'on est en train de changer, je veux dire qu'on est en train de changer la nature même de l'ère géologique. Enfin, c'est les fondamentaux les plus de base et les plus puissants à la fois des conditions de la vie sur Terre. C'est vraiment une énorme catastrophe, quoi. Donc il y a une beauté. Enfin, je reconnais la beauté spectaculaire, quoi, et la force d'expression de ce mot. Mais une fois dit ça, j'ai deux problèmes principaux. Le problème est que anthropocène, donc c'est l'anthropos, donc c'est l'espèce humaine en tant qu'espèce qui causerait ces impacts. Or, ça ne me paraît pas juste, puisque ce n'est pas l'espèce humaine en tant qu'espèce qui a causé le dérèglement climatique et toutes ces manifestations de perte de biodiversité et de détérioration diverse de l'écosystème. Ce n'est pas l'espèce humaine en tant que telle. C'est une civilisation qui est la civilisation industrielle, commencée avec la révolution industrielle. Ce sont donc des pays. C'est d'abord la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Europe. Alors aujourd'hui, de plus en plus, la Chine et l'Inde. Mais donc on a des acteurs beaucoup plus précis que ça. Ce sont les riches, hein, qui polluent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres. Enfin, il faut le rappeler. Donc on n'est pas tous également responsables du dérèglement climatique. Et moi, je crains que, dans ce succès de l'anthropocène, il n'y ait aussi, ça arrange que finalement ce terme, à la fois en écrasant tout le monde, il arrange aussi beaucoup de gens, quoi. Il arrange beaucoup de gens dans le sens où ça dilue les responsabilités. C'est en ça que moi j'y vois un risque de dépolitisation. Alors je sais que l'historien Christophe Bonneuil et l'historien Jean-Baptiste Fressoz, eux, ils se défendent de ça, c'est-à-dire qu'ils disent à la fois c'est une notion très forte, on peut se réapproprier ce mot, et on peut dire c'est l'anthropocène, et en même temps l'anthropo c'est pas tout le monde, par exemple Jean-Baptiste Fressoz parle d'anglocène en disant c'est avant tout l'espace anglo-saxon, puisque c'est eux qui se sont industrialisés en premier. Pablo Solon, qui aujourd'hui a Focus on Global South et qui est l'ancien négociateur climat de la Bolivie, il a une formule assez rigolote, il dit c'est la 1% scène. Les 1%, la scène des 1%, les 1% les plus riches par opposition aux 99% des autres.
Il parle aussi de capitalistocène.
La capitalistocène, bon, c'est un petit peu plus dur à dire. Ouais. Bon. Ok, donc il y a cette limite-là. Et j'ai une deuxième critique de l'anthropocène, qui est une critique plutôt écoféministe de ce point de vue-là, qui est que voilà, on est encore dans l'idée de la surpuissance humaine, quoi. C'est-à-dire, ça y est, là, maintenant, on est encore plus fort qu'avant, quoi. C'est qu'on est tellement, tellement fort en tant qu'espèce que, on a carrément réussi à changer d'ère géologique. Et donc, on reste dans une rhétorique de la puissance, du superpower. Et je suis pas sûre que ce soit la bonne pente, philosophiquement, pour essayer de penser un autre rapport à la nature. C'est-à-dire que, moi, je dirais plutôt, il faut essayer de se penser de manière plus modeste, finalement, par rapport à cette nature, d'ailleurs, dont on se rend compte qu'on est de plus en plus hybride d'elle-même. Donc, plutôt penser cette hybridité, les transferts, les points communs, plutôt que se penser comme une espèce d'énorme mastodonte qui, telle une espèce de nouveau dieu, quoi, va peut-être, du coup, inventer des modes d'action contre le climat qui soient à la hauteur de cette puissance technologique. Et ça, encore une fois, ce qu'on voit bien dans l'exemple de Paul Crutzen, donc, qui a inventé l'anthropocène, c'est que par ailleurs, il a fait partie des scientifiques qui ont plutôt défendu l'idée de la géo-ingénierie. Donc l'idée que le climat, ça nous dépasse tellement, on n'arrivera jamais de nous-mêmes à réduire nos émissions. Donc il n'y a qu'une solution, c'est pas une solution sociale, c'est pas une solution politique, c'est une solution technologique. Et donc on va inventer des technologies nouvelles qui vont protéger la Terre, vider l'atmosphère de son CO2, de son méthane, etc. Et ce qui sont aujourd'hui des solutions très hypothétiques et puis politiquement très problématiques. Donc, pour toutes ces raisons, moi je suis assez convaincue par, encore une fois, Vandana Shiva, donc la physicienne activiste indienne, qui est très méfiante de cette notion d'anthropocène en disant c'est encore un truc de macho, quoi. Et il y a un petit côté macho, enfin il y a même un très très gros côté macho que il me semble on peut interroger.
Alors, peut-être pas sur le côté macho, mais sur la première réserve que vous formulez quant à l'anthropocène. On pourrait aussi formuler une réserve un petit peu équivalente sur la question climatique, et c'est un reproche qu'on pourrait faire à votre livre au fond, c'est son carbocentrisme, c'est-à-dire que à se centrer sur la quantité de molécules de CO2 dans l'atmosphère, alors y compris en partant de nos gestes quotidiens, de nos modes de vie, etc., au fond, on n'embrasse qu'une partie du problème, et d'ailleurs, l'une des solutions, ce serait la géo-ingénierie, est tout à fait soluble là-dedans aussi, ou le nucléaire, vous parliez des voitures électriques, les voitures électriques, en France, elles fonctionnent au nucléaire. Donc si on reste sur le carbone, au fond, on peut aussi embrasser tout un tas de fausses solutions.
Non, je suis d'accord. Le carbocentrisme est un problème. Et absolument, moi, je sais que c'est vrai que dans ce livre, je parle beaucoup plus du CO2, mais je parle beaucoup plus du CO2 parce que je parle du sujet contemporain, industrialisé, urbanisé, et qui est émetteur de CO2 directement, quotidiennement, etc. Il est émetteur de méthane ou d'autres gaz à effet de serre de manière parfois plus indirecte. Surtout, je pense qu'il y a pour moi deux quand même arguments qui font que c'est quand même intéressant politiquement de se concentrer sur le CO2, même s'il ne faut pas le faire exclusivement. Donc là, je suis hyper d'accord, le carbocentrisme est un problème. Mais quand même que, un, c'est quand même le CO2, le gaz à effet de serre le plus répandu. C'est pas le plus puissant, mais c'est le plus répandu. Donc, une fois, si on arrive à trouver des formes de lutte efficace contre ces émissions qui soient redistributives, etc., bon, on aura quand même fait un énorme pas dans le règlement du dérèglement climatique. Donc, c'est quand même pas un mince argument. Le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2, mais quand même moins répandu. Bon, ça, c'est un argument plus physique, de physique du climat. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'intéresse, évidemment, dans le CO2, et là, j'assume ce biais, c'est son lien avec le mode de vie industriel contemporain. Donc, c'est, pour moi, le lien, il est là, c'est celui des modes de vie, du style de vie, et que cette subjectivité contemporaine, industrialisée et urbanistique, elle est très liée au CO2 parce qu'elle est liée à ça, au consumérisme et à cette civilisation de la voiture, de l'avion, etc. Et que moi, c'est de ça dont j'avais envie de parler. Donc j'assume ce biais et je reconnais tout à fait qu'on pourrait faire un jeu crise climatique à la campagne, rurale et agricole, et que d'ailleurs, ça serait super intéressant.
Alors là, on peut peut-être reprendre un petit peu d'espoir parce qu'il y a un exemple de lutte réglementaire, étatique, institutionnelle contre un gaz extrêmement nocif qui a fonctionné. C'est la lutte contre la destruction de la couche d'ozone.
Oui. Alors, c'est un bon exemple d'efficacité, de politique publique, de réglementation, enfin de solution d'un problème de pollution. Je pense que malheureusement, on ne peut pas du tout s'en inspirer pour le CO2. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une solution technique, en fait, de substitution, en fait, aux produits qui causaient le creusement du trou dans la couche d'ozone. On avait l'enjeu technologique de la substitution de ce produit par un autre n'était pas si compliqué. Donc, il a été faisable. Et d'ailleurs, on se rend compte en fait aujourd'hui que le produit, les gaz par lesquels on les a compensés, vont aussi poser des problèmes climatiques, enfin d'autres formes de pollution atmosphérique. Donc, il n'y a jamais une solution sans effet négatif par ailleurs. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je dirais plus importante, c'est que le CO2 est beaucoup plus au cœur du système de pouvoir et beaucoup plus au cœur du capitalisme que ne l'était ce qui causait la couche d'ozone. Et donc, En fait, on ne peut pas vraiment comparer. C'est-à-dire, ce qu'on peut se dire, c'est par exemple pour un pays comme les États-Unis, je pense que c'est un exemple intéressant et important parce qu'ils ont été en pointe sur cette réglementation, donc ils ont pu agir, ça a été couronné de succès. Ils ont d'ailleurs, à l'époque, par un marché, hein, par un marché du dioxyde de soufre qui a bien fonctionné et qui a ensuite été servi d'inspiration au marché du CO2. Mais on voit bien que le marché du CO2 ne fonctionne pas. Ça a marché pour le dioxyde de soufre, ça ne marche pas pour le CO2. Et je pense pour cette raison-là, vraiment, du fait que c'est beaucoup plus au cœur de notre système économique, industriel et financier. Et donc, il faudra beaucoup plus, en fait, d'action et à toutes ces échelles et à tous ces niveaux que ce qui a été mis en branle à l'époque pour la couche d'ozone.
Merci beaucoup, Jadeline Garde, auteure de Je crise climatique, La planète, ma chaudière et moi.
Merci à vous.
Critique.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.